bam, bam, bam.
Jeff Carl. Jeff Carl.
Salut, prof Caron, comment ça va?
Bien, toi?
Super bien. Pour ton bilan 2025, bilan international.
Ouais, c'est ça. Je fais mon bilan de l'année internationale 2025. Je fais que je vais vous parler des perdants puis des gagnants. Je vais commencer par les perdants. Moi, j'ai décidé de décerner la médaille d'or à l'Union européenne, qui a démontré deux choses cette année. Donc, premièrement, que l'Union européenne, c'était plus un acteur de la scène internationale, c'était un simple observateur qui se faisait dicter quoi faire par le reste de la planète. Puis deuxièmement, pour sa propension à carrément bafouer l'état de droit et la démocratie. Fait que, premièrement, on l'a vu là, cette année, à quel point l'Europe comptait plus. Puis, à quelque part, l'Europe, elle a juste elle-même à blâmer hein, depuis qu'elle a créé l'Union européenne. Parce que l'objectif de l'Union européenne, c'était d'unir les peuples européens afin qu'ils puissent s'affirmer dans un monde bipolaire. Fait que l'idée était bonne sur papier, mais en réalité, l'idée s'est révélée catastrophique parce que l'Union européenne a plutôt contribué à diluer le pouvoir des peuples dans un enfer bureaucratique qui nuit à la compétitivité des pays européens en imposant une multitude de réglementations puis de restrictions à ce que les pays peuvent faire. Fait que ça, c'est tout l'inverse de ce que doit faire un pays pour s'affirmer.
C'est pas une démocratie.
Ouais,
c'est
ça, je vais y venir.
C'est une bureaucratie.
Vous avez des milliers de fonctionnaires à Bruxelles qui imposent des réglementations sur tout et sur rien. T'sais, à côté de ça, le Québec fait pâle figure, là. En matière de réglementation, l'Union européenne émet beaucoup plus de réglementation qu'au Québec. Mais tu sais, un pays, pour s'affirmer, ça a besoin de faire preuve de leadership, de rompre les consensus, de sortir des consensus. Puis moi, pour moi, le meilleur exemple européen, c'est De Gaulle, dans les années 60, qui a décidé là, de dire littéralement un grand fuck you à ses partenaires en se retirant du commandement intégré de l'OTAN. Puis en faisant ça, il a doté la France de l'arme nucléaire. Puis ça, ça a permis à la France d'avoir une influence réelle sur la scène mondiale. Ben, t'sais, en 1961, Kennedy, qui venait tout juste de se faire élire à la présidence, avant d'aller rencontrer Nikita Khrouchtchev à Vienne, il a d'abord fait un arrêt à Paris, à l'Élysée, pour rencontrer le général de Gaulle puis recevoir ses conseils. 60 ans plus tard, Trump prend même plus la peine d'accueillir lui-même ses visiteurs européens sur le parterre de la Maison-Blanche. Puis l'indigne successeur du général de Gaulle, Emmanuel Macron, maintenant, il parle plutôt de partager avec le reste de l'Europe le feu nucléaire français, puis voire même de donner à l'Europe un droit de regard sur l'utilisation éventuelle de l'arme nucléaire française. Fait que, finalement, l'Europe, en se fédérant, a affaibli ses pays membres qui pouvaient encore espérer par des gestes, tu sais, hautement symboliques puis du leadership, être en mesure de se tailler une place comme acteur global. Puis malgré tout ça, ce qui est vraiment pathétique, c'est que l'Union européenne monte ses muscles puis cherche à imposer ses conditions de paix à la Russie. Tu sais, le meilleur exemple qui me vient en tête, vous vous souvenez certainement du film Million Dollar Baby avec Clint Eastwood. Tu sais, le personnage de Danger. Tu sais, c'est le gars chétif qui est pas trop fut-fut, qui se prend pour Sugary Leonard. Ben, c'est ça, l'Union européenne. C'est ça. C'est Macron, Starmer, puis Van der Leyen. C'est le personnage de Danger dont tout le monde se moque dans le film, puis personne prend au sérieux. Puis deuxièmement, écoute, l'Europe a fait sienne maintenant le dicton suivant, puis particulièrement en 2025. Il est nécessaire de détruire l'état de droit, de censurer les gens afin de sauver la démocratie.
L'Angleterre et l'intervention des policiers. Hey, t'as fait un mauvais tweet il y a 3 ans.
6 mois en prison. Ouais. Mais ce qui s'est passé hier, là, dans le cadre de l'Union européenne, ça m'a littéralement scié les jambes.
Raconte-nous.
Il y a différents individus, dont deux que vous connaissez très bien, dont Xavier Moreau, qui a déjà donné des entrevues.
Ben, il est déjà venu ici physiquement. Moi, je suis allé déjeuner aussi avec Xavier. Il est venu ici à Québec, là.
Puis Jacques Beau, qui est un ancien colonel de l'armée suisse, qui participe à plein de podcasts. Stéphane Bureau l'a accueilli à son podcast Contact. Mais ces deux individus-là, hier, ont été sanctionnés par la Commission européenne parce qu'ils sont, et je cite, « des propagandistes du Kremlin ». C'est quoi les sanctions maintenant? Ils risquent d'être interdits de séjour sur le territoire de l'Union européenne, interdits d'y transiter et aussi de voir leur avoir être gelé.
Si Moreau veut venir au Canada, il y a une escale à Charles de Gaulle, il peut pas.
il pourrait se faire arrêter.
Même
si c'est un citoyen français.
Puis on se comprend, on fait pas de l'angélisme, là. Xavier est pro-russe, c'est un russe. Je veux dire, là, on vous le dit, puis on vous le répète. Faut quand même le dire, Jean-François. Ceci dit, c'est une opinion politique. C'est un discours politique argumenté. On dit pas qu'il y a raison ou tort, Moreau. Comme Beau, mais ils ont des opinions. Des opinions qui sont souvent partagées en passant par Berkoff.
Aussi, oui.
Et Berkoff demeure à Paris.
Ben oui. Mais ce qui est vraiment problématique, c'est que la décision a été décidée sans procès, sans preuve.
Excommunié.
Sans possibilité pour ces individus-là de pouvoir faire appel. Juste parce que c'est des agents russes, c'est des propagandistes du Kremlin. Ça, là, c'est le triomphe bureaucratique de la pensée NPC. Il suffit de penser que quelqu'un est méchant pour lui retirer ses droits les plus fondamentaux. Ben, c'est ce que l'Union européenne a fait hier. Je trouve ça absolument hallucinant. Et je dis, ça m'a scié les jambes lorsque j'ai lu cette nouvelle-là ce matin. Puis c'est sans appel, ouais.
Est-ce à dire que tu as peur de passer dans le tordant?
Ben honnêtement, je me dis, si le Canada emboîte le pas, ça va être qui le monde qui vont se ramasser dans la charrette? Tu sais, j'ai déjà été cancellé à Ottawa il y a 2 ans.
Tout à fait.
Justement pour des propos qui soi-disant étaient de la propagande du Kremlin. Tu sais, c'est ça. Je sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais le problème, c'est Carney. Il se détache des États-Unis pour se coller sur l'Europe.
Ah, énormément.
Ça augure rien de bon pour l'avenir du pays, d'autant plus qu'il avait appelé dans un texte, avant lorsque les camionneurs avaient bloqué les routes à Ottawa, il avait appelé lui-même dans un texte le gouvernement Trudeau à l'époque à imposer la loi sur les mesures d'urgence contre les camionneurs. Tu sais, le gars, là, il sent la même longueur d'onde que Macron, Starmer puis Van der Leyen. Puis honnêtement, là, c'est, l'Union européenne, c'est la médaille d'or du loser, de la lose en 2025. Puis malheureusement, comme le dit le dicton, les losers se tiennent habituellement avec les autres losers. Fait que ça fait en sorte que le Canada, c'est aussi un loser en 2025.
C'est qui le winner? Maintenant,
winner, c'est les peuples qui se réveillent contre la bonne conscience des dirigeants qui les ont mis dans marde. C'est la bonne nouvelle de 2025 pour moi. C'est des gens qui se mobilisent contre tous les partis traditionnels qui les ont appauvris depuis des années, qui ont pris des décisions qui n'étaient pas fondées sur la raison ou l'intérêt national, mais simplement sur la bonne conscience. Ça, des gens là, qui s'élèvent contre des décisions qui ont porté atteinte à leurs besoins les plus basiques. T'sais, vous connaissez la fameuse pyramide de Maslow qui établit une hiérarchie des besoins, puis les deux besoins les plus élémentaires sont le bonheur matériel et la sécurité. Or, les peuples qui se réveillent, là, ils réalisent que ceux qui les gouvernent depuis des décennies ont posé des gestes qui ont porté atteinte à la satisfaction de ces besoins-là. Pensez aux mesures draconiennes de la pandémie qui ont engendré de l'inflation. Dans le cas canadien, les tarifs imposés par Carney contre les États-Unis qui ont aussi eu cet effet-là. En Europe, les sanctions contre la Russie qui ont fait exploser le prix du gaz. Tout ça au nom de la bonne conscience, et non pas au nom de la raison d'État, comme en ce qui a trait aussi à l'ouverture incontrôlée des frontières.
Ben oui.
Puis là, les peuples que ces dirigeants-là...
C'est dans le psyché allemand, hein? Oui, regarde, c'est vrai, faut être gentil cette fois-ci. Elle a ouvert la porte à une trolée de Syriens et le bordel est poigné en Europe.
Les peuples que ces dirigeants-là ont méprisés puis ignorés, ils se mobilisent derrière des gens comme Jordan Bardella ou Nigel Farage en Grande-Bretagne. Puis évidemment, ça terrorise les bien-pensants qui présentent maintenant ces politiciens-là comme des dangers publics.
Extrême droite.
Sans réaliser eux-mêmes que c'est eux qui ont le plus desservi le bien commun. C'est eux qui ont été les pires dangers depuis les 30 dernières années en posant les gestes qu'ils ont posés au cours des dernières années, des dernières décennies. Puis peut-être en terminant, j'ai un cas neutre. C'est ni perdant, ni gagnant. Ça va peut-être vous surprendre, mais je place Trump dans cette catégorie-là. D'une part, je pense qu'on doit reconnaître qu'il a multiplié les efforts de paix. C'est lui qui a orchestré le plan de paix à Gaza.
Il n'arrête pas d'envoyer son associé au Kremlin, tenter de soutirer, je ne sais pas, une entente. Retourne à Kiev, va à Moscou. De l'enfer. Ça avance pas, ce dossier-là, pareil. Hein?
Ça avance pas, mais au moins, il essaye. T'sais. Mais en tout cas, dans le cas de Gaza, il a réussi à mettre fin à 2 ans de guerre entre les Israéliens et les terroristes du Hamas.
Il a maté l'Iran.
Oui, pas par des fins pacifiques, par contre. Il a utilisé la violence pour ça.
Il l'a fait.
Il l'a fait. Il s'est aussi impliqué pour accélérer d'autres processus de paix, ici là, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sur le dossier du Nagorno-Karabakh. Puis même les gens sévèrement atteints du TDS vont lui reconnaître, je pense, ces mérites-là. Mais par contre, à l'inverse, en 2025, l'unité au sein du Parti républicain s'est effritée. Puis on en a discuté avec Stéphane Bureau dimanche dernier dans notre podcast. Il s'est coupé en 2025 une voix très influente au sein de la mouvance républicaine. Marjorie Taylor Greene sur le dossier de la liste Epstein. Oui. Tucker Carlson qui l'a critiqué très sévèrement cet été sur sa gestion de l'économie. Donc, d'une certaine façon, la frange la plus MAGA du Parti républicain s'est retournée un peu contre lui en 2025. Puis ça, ultimement, 2026, ça pourrait peut-être faire de Trump un loser. Parce que il semble qu'il est en train de commettre l'erreur de George Bush, senior, le père, qui avait pensé que les gens allaient le réélire en 1992 à cause de ses succès internationaux. Donc, la victoire contre Saddam Hussein puis la libération du Koweït. Or, Bush a négligé ce qui était le plus essentiel. Puis, vous vous souviendrez de cette phrase-là qui est demeurée dans les annales. « It's the economy, stupid. » Donc, s'il ne réalise pas c'est quoi la véritable priorité du peuple américain, ben ça pourrait faire en sorte qu'il pourrait perdre le contrôle du Congrès aux midterms de l'année prochaine. Donc, c'est beau tout ça, ce qu'il fait sur la scène internationale, régler des dossiers, des problèmes, des guerres.
Mais c'est la politique domestique qui est la plus importante.
Il est en train d'oublier la politique domestique, puis oui. ça mène à des dissensions au sein du Parti républicain qui pourraient lui coûter très cher en 2026. Fait que c'est pour ça que je le mets dans la catégorie neutre. Il a fait des bonnes choses, mais il a aussi fait des choses qui pourraient le mettre dans la merde en 2026.
Ton année, toi, en terminant, 2025 dans ta vie, c'est quoi l'élément, ton déménagement, j'imagine, hein? C'est quoi l'élément central en 2025? Pour toi, mettons, au côté bonne nouvelle dans ta vie à toi. Ta promotion, ton déménagement?
Oui, promotion, déménagement. Ouais. Ça a fait près de 10 ans à Astana. Ça a fait du bien de voir autre chose, de rencontrer d'autres personnes.
T'es-tu développer content?
Des. Oui, non, je suis content. J'ai développé des programmes de
recherche. Oups, là, j'entends
personne ici. Okay. Fait que, non, je suis super content de mon année. Puis, la moitié de 2026 va aussi se poursuivre en Arménie, à Yerevan. Fait que, je suis
La famille est contente, la famille est heureuse.
Tout le monde va bien, tout le monde est en santé. Les filles qui ont grandi dans un environnement russophone, tu sais, leur première langue, c'est le russe. Hein? La grand-mère, la gardienne, tout le monde leur parle en russe. Puis après ça, leur deuxième langue, ça a été l'anglais. Puis le français, c'est seulement leur troisième langue. Puis là, la plus vieille, qui a 9 ans, le français, c'est devenu sa langue principale. Elle commençait à lire des romans en français. Puis, tu sais, elle exige que ses sœurs commencent aussi à lui parler à la maison en français.
Faites jouer LCN!
Oui! Mais c'est super fun. C'est super le fun de voir mes enfants pouvoir se développer comme ça dans un environnement qui ne serait pas possible au Québec. Hein?
Absolument.
Ce ne serait pas possible au Québec.
Non.
Elle parlerait russe ou anglais dans la rue puis elle se fait regarder tout croche.
Oui!
Parce que, au Québec, c'était en français.
Ouais, ah, ça. Tu l'aimes, Poutine, hein?
Ouais.
Incroyable.
Puis, il faut que ça soit en français.
Oui.
Non, je suis vraiment content pour elle. Elles font mon bonheur.
Ben, tu fais notre bonheur à nous aussi. Puis on est fiers, puis on est privilégiés de t'avoir, Jean-François. Passe de joyeuses fêtes. Ça va être un plaisir de te
Noël
parler en 2026. Assurément. Joyeux Noël. Bye-bye.
Joyeux Noël. Bye.